6h02, mercredi 2 décembre. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM. Ben, le mauvais temps se poursuit. Hier, il y a eu cette parenthèse ensoleillée à Montréal, mais rapidement, les nuages ont pris le dessus, la pluie également, hier en fin de journée. Et pour aujourd'hui, ben, on prévoit des températures stables, on a 3 degrés, ça ne bougera pas, avec 60 % de probabilité d'averse de pluie ou encore de neige, il n'y a pas d'accumulation. Mais c'est donc une autre journée grise là, qui vient de s'inscrire au décor. Ce soir et cette nuit couvert, encore là peut-être précipitation. Demain, on prévoit des nuages qui vont s'installer tôt demain matin et risque d'averse en après-midi avec un maximum de 4 degrés. Et vendredi, ben là, c'est une vraie journée de la pluie intermittente avec un maximum de 4 degrés. On va peut-être respirer un peu samedi, peut-être aussi un peu dimanche. Ça reste à voir, mais disons que la semaine est une semaine tout à fait grise. Là. C'est vraiment de la pluie. Parfois, c'est venteux. Et comme aujourd'hui, ben, c'est un mélange potentiel de pluie et de neige. Très, très bonne nouvelle ce matin qui est tombée il y a quelques heures, c'est-à-dire que la Grande-Bretagne devient le premier pays officiellement à autoriser un vaccin contre la COVID. Et c'est le vaccin fabriqué par Pfizer et la biotech BioNTech, qui est une société allemande. Pfizer, c'est américain. Ce qui fait que la campagne de vaccination en Grande-Bretagne pourrait commencer pas plus tard que la semaine prochaine. Ça va se faire assez rapidement. Entre-temps, les Américains se prononcent le 10 décembre prochain. Si c'est approuvé, ben, on pourrait prévoir donc aussi une vaccination qui s'amorce aux États-Unis. Il y a également la compagnie Moderna qui tente d'obtenir les approbations. Tout ça d'ici la fin décembre. Pour ce qui est du Canada et du Québec, on a eu quelques précisions. D'abord, on comprend que les doses seront limitées, que d'une part, le Québec va avoir à peu près l'équivalent de doses là, pour 8 % de la population d'ici la fin du mois de mars, et qu'en vertu des ententes qui ont été conclues par le fédéral, tout au cours de l'année, il y aura vaccination. Et avant d'aller plus en détail dans les opérations de vaccination, je vous invite à écouter le docteur Carl Weiss qui, hier matin, nous expliquait justement, là, quand on se fait vacciner, à quel moment le vaccin devient efficace. Et je rappelle que c'est un vaccin là, qui prévoit 2 doses.
10 et 14 jours. Donc, rappelez-vous que comme c'est 2 doses pour avoir la pleine efficacité, donc vous avez votre dose au jour 0, votre deuxième dose au jour 21. Il y a des gens qui vont répondre après la première dose, mais pour avoir la pleine efficacité de tout le monde, il faudrait que vous comptiez à peu près 10 jours après la deuxième dose, donc 21 plus 10 à peu près, 10 à 14, on dit, là vous devriez avoir le maximum d'immunité dans la population vaccinée.
Bon, ça veut dire en pratique, si vous faites vacciner le premier du mois, puis il faut attendre après ça la deuxième dose, ça ne veut pas dire que ce n'est pas efficace, mais que, comme dit Dr Weiss, la pleine efficacité va être atteinte à la fin du mois. Alors, il faut toujours avoir ça en tête. Ce qui veut dire aussi, compte tenu qu'au Québec, ça va s'étaler jusqu'à la fin de l'année prochaine, bien, l'immunité collective qu'on souhaite, ça va prendre quand même un certain temps. En conséquence, les mesures qu'on connaît de distanciation, de port du masque, c'est pas l'arrivée du vaccin qui, d'un coup de baguette magique, va faire disparaître l'importance de ces mesures sanitaires. Puis c'est vrai que c'est un vaccin qui est compliqué à administrer. Par exemple, en Grande-Bretagne, on pense que les premières doses vont aller vers les gens qui sont dans le réseau de la santé. Et après ça, les résidences pour personnes âgées. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle la chaîne de froid. Et c'est un vaccin qui doit être conservé à des températures très, très froides, de moins 70 degrés Celsius. Tu ne trouves pas ça partout, là. Contrairement au vaccin développé par AstraZeneca, qui coûte moins cher puis qui a besoin d'être conservé de façon plus traditionnelle, ben, ces deux vaccins-là sont quand même des vaccins qui sont complexes à gérer. Alors, la Grande-Bretagne va procéder de cette façon-là, puis on s'attend un peu que ce soit la même chose ici, c'est-à-dire que protéger les gens qui sont dans le réseau de la santé puis les plus vulnérables, c'est-à-dire les personnes âgées. D'ailleurs, quand vous regardez les chiffres concernant la situation au Québec, on le voit, il y a beaucoup de cas positifs, mais les gens qui sont hospitalisés ou qui se retrouvent aux soins intensifs ou qui malheureusement meurent, ben, principalement, on retrouve des gens qui sont âgés. C'est la même clientèle que le printemps dernier. Moins de cas, mais on l'a vu hier, les ressources, les fameux RPA, là, où il n'y a pas de personnel spécialement formé, où il y a des éclosions. Et comme le disait le ministre de la Santé, conséquence de ça, c'est que si tu prends du personnel, tu le sors des hôpitaux, puis tu l'envoies dans les RPA, bien là, tu viens d'affaiblir ton offre. On pourrait en discuter jusqu'à demain matin, mais le constat, c'est que notre réseau de la santé, il n'est pas faible un peu, là. Il est plus que fragile. Ça ne prend pas grand-chose pour annuler des opérations. Le manque de personnel chronique. Et dès qu'il y a une petite vague, bien là, ça vient comme, disons, brasser pas mal. Et d'ailleurs, je regardais ce matin au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a des infirmières et des infirmiers qui doivent maintenant assurer des gardes de 12 heures durant leur journée de congé. Au cas où un autre patient atteint de la COVID aurait besoin d'être transféré à Québec. Ça va mieux, là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais ça demeure une des régions prorata de la population, là, qui est la plus touchée. Et on le voit ce que ça veut dire, là. C'est toujours important d'avoir à l'esprit ce que j'appelle les patients non-COVID. Maintenant, si je reviens à la vaccination, sondage ce matin commandé par Radio-Canada, allez-vous faire vacciner? On va l'avoir, le vaccin, là. Réponse des Canadiens, environ deux tiers disent que oui. 64 % des répondants disent qu'ils iront certainement ou probablement recevoir le vaccin. Il y a un pourcentage qui préfère attendre. De toute façon, vous n'aurez pas le choix parce que vous allez attendre avant que les provinces puissent avoir accès à l'ensemble des doses. Et il y a 16 % des gens qui pensent ne pas se faire vacciner. Alors, il y a des mouvements anti-vaccins, marginaux, mais quand même. En Europe, il y a des taux de refus du vaccin qui sont élevés. Ici au Canada, de façon générale, il y a une acceptation des vaccins, puis des vaccins qui ont éradiqué beaucoup de maladies. Alors, quel sera l'effet de ce vaccin? Par exemple, on posait la question hier, quelqu'un qui a déjà eu la COVID, est-ce qu'on devrait vacciner cette personne-là? La réponse, c'est oui, parce que tu ne sais pas combien de temps va durer l'immunité. Et il y a le vaccin d'AstraZeneca où il y a eu des problèmes, semble-t-il, de recherche, de qualité de résultats. Et pour les deux autres connus, il n'y a pas eu d'effet secondaire notable. Les Russes et les Chinois ont commencé à administrer des vaccins, mais il y a des questions qui se posent aussi sur la rigueur. Et l'autre phénomène qu'on va regarder, je pense que ce sera aussi la décision de Santé Canada, la capacité d'agir rapidement là, de Santé Canada face à ça. Alors, c'est tout le volet concernant la recherche et la vaccination. Je vais parler un peu plus tard ce matin avec le VP de la Croix-Rouge au Québec. La Croix-Rouge fait un travail extraordinaire qui passe malheureusement dans l'ombre. Ils ont formé des soldats pour des interventions dans des centres de soins de longue durée. Ils ont remplacé des soldats. Ils s'occupent de campagnes de prélèvement, d'information aussi. Et je trouve ça important de pouvoir mettre en lumière ce qu'ils font. Tu sais, qu'on parle des coups durs des fois puis des situations plus litigieuses. Mais de souligner ce matin le travail de la Croix-Rouge, c'est majeur. Le premier ministre François Legault nous a dit hier que la décision pour ce qui est des règles pour la période des fêtes, décision finale, sera prise le 11 décembre prochain. Et dans quelques jours, on est le 2. Depuis déjà le début de la semaine, puis même la semaine dernière, vous entendez beaucoup, beaucoup d'experts dire que ça n'a pas de bon sens, qu'on n'est pas dans la bonne direction, que le nombre de cas, et on le voit, la pression sur le réseau, devrait faire en sorte qu'il n'y en ait pas de rassemblement. Déjà, beaucoup de Québécois n'ont pas l'intention, à l'extérieur de leur bulle, de rencontrer des gens. Il y en aura des parties. C'est clair que peu importe ce que Québec va dire, il y a des gens qui ont décidé qu'ils en feraient. Mais globalement, je pense qu'il y a une majorité de Québécois pour qui la décision est claire et elle est prise, c'est-à-dire la bulle, la famille immédiate, puis peut-être un rassemblement, ou peut-être deux, mais sûrement pas là, des méga-parties, puis c'est pas tout le monde qui a envie d'aller à des fêtes de 10. Puis les gens vont s'ajuster. Puis c'est pas comme s'il y avait pas un horizon quand même qui est là, avec le vaccin qui devient disponible. Je trouve ça un peu pénible de voir qu'il y a des gens qui s'attendent, ou en fait qui attendent que le gouvernement leur dise quoi faire. Moi, je m'attends pas à ça. C'est comme si le premier ministre dit « Je vous ai proposé un contrat social, puis il y a une clause. qui me permet d'annuler le contrat d'ici le 11 décembre si les chiffres ne sont pas au rendez-vous. Et les chiffres ne sont pas au rendez-vous. Alors, oui, ça a créé de l'espoir peut-être, mais en même temps, ça va faire en sorte que les gens vont comprendre qu'on n'a pas envie de se retrouver en janvier avec un réseau qui, de toute façon, en hiver, est fragile. Et donc, avec une pression encore. Puis je pense toujours à ces cas de non-COVID, là, des gens qui attendent. Peut-être que vous attendez là, pour une chirurgie, puis ça a été repoussé, repoussé, repoussé. Le printemps, parce qu'on a délesté. Puis là, on est encore en train de délester. Alors, pour ce qui est donc de cette prise de décision, je vous dis personnellement, peu importe ce que le premier ministre va dire, je pense que moi, ma décision est prise. Puis je pense que dans votre cas, en tout cas dans beaucoup de cas, la décision est prise également. Puis on le voyait, là, des cas, hier, on a sorti la liste des hôpitaux touchés, notamment Sorel-Tracy. Puis je regardais ce matin l'hôpital juif de Montréal qui fait face aussi. Ils ont ouvert une deuxième zone pour des cas de COVID. Et aussi dans l'ouest de Montréal, dans The Gazette, vous allez retrouver ça ce matin. On va parler d'éducation. Le ministre Jean-François Robert sera avec nous. On est dans l'opération là, qualité de l'air dans les écoles. D'ailleurs, on a appris ce matin, je viens de voir ça sur Radio-Canada, là, il y a une école à New Carlisle, une école anglophone, petite école, là, où ça montre une ventilation déficiente. Non seulement la ventilation est tout croche, mais en plus, il y a de l'amiante, des moisissures. 84 des 141 élèves poursuivent leur cours là, à l'extérieur de l'école depuis le 3 novembre. C'est épouvantable comme qualité de l'air. Et je sais que ce n'est pas tout le monde qui considère que c'est un enjeu, mais il y a beaucoup de scientifiques qui pensent que la qualité de l'air puis la transmission par aérosol, il faut en tenir compte. Marois Risky m'a fait pas mal bidonner hier quand elle a parlé du ventilo sceptique, ministre de l'Éducation, qui lui a pas l'air à penser que c'est important. Mais il me semble que ça devrait même pas être un enjeu d'avoir... Quand tu dis au Québec que la moitié des écoles n'ont pas de système mécanique, je ne peux pas croire qu'on n'a pas trouvé des solutions. Puis là, la Fondation Jasmin Roy, vous connaissez ma position là-dessus, je ne pense pas que c'est une fondation qui sollicite des dons d'acheter de l'équipement qui doit être fourni à des écoles. Mais bon, il y en a qui donnent. Ils ont offert ça à une école, puis l'école a dit non. L'école a refusé. Je veux dire, je pense que c'est majeur d'avoir un portrait, surtout l'hiver. Là. On est chanceux à date parce qu'on peut encore ouvrir les fenêtres un peu. Là. Mais puis je ne comprends pas que ça ait pris tout ce temps-là. Alors, on va parler de ça ce matin. L'autre chose où j'aimerais vous entendre, c'est comment ça se prépare pour la période là, où il y a deux jours où les étudiants seront à distance. Je reçois beaucoup de courriels de parents, puis même d'enseignants. Il y a des parents qui ne comprennent pas, parce que là, tu sais, quand tu te parles entre parents, puis c'est pas le même prof, dans certains cas, il y a des travaux qui seront remis avant le départ, ce qui fait qu'il n'y a pas de lien de prévu. Il y aura un suivi au retour. Dans d'autres cas, on prévoit une heure ou deux par jour. Là, je parle d'enfants du primaire. Dans d'autres cas, c'est beaucoup plus militaire, si on veut, comme calendrier. Et il y a même un parent qui m'a fait parvenir un message de l'enseignante qui dit qu'il ne corrige pas les devoirs actuellement. Et ils envoient le corrigé aux parents en disant « Si vous voulez savoir si votre enfant a bien répondu, bien voici le corrigé. » Puis j'ai vu le corrigé en question. Donc, l'important, c'est l'étude puis que les devoirs sont facultatifs. Alors, il n'y a pas de correctif. Il y a des parents qui ne trouvent pas ça drôle. Tu sais, qui disent « Mais voyons donc, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une correction qui se fait ?» normalement. Et dans ce cas-là, ben, on insiste sur le fait qu'il n'y a pas d'entente collective, que ça fait depuis plus d'un an maintenant, et que depuis deux semaines, ils sont à intensifier des moyens de pression en limitant les communications aux heures officielles, c'est-à-dire du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30, ce qui fait que c'est pas toujours simple aussi pour les parents. Puis là, le prof dit, ben, moi, c'est « by the book ». Puis dans d'autres cas, il y a des parents qui disent « Ouais, mais là, on n'est pas là, puis comment on va avoir le suivi comme tel? » Puis bon. Alors, c'est un paquet de questions qu'on est, je pense, en droit de soulever ce matin. Comment ça s'organise dans les écoles? On sait que c'est... Je pense aux étudiants, par exemple, de l'école de technologie supérieure, mais surtout Polytechnique, là, où il y a beaucoup, beaucoup d'examens qui vont se faire en présentiel. Il y a des cégeps qui demandent, puis là, c'est ça, là, tu dis, ben, faut que je me présente le 22, ce qui fait que je suis éliminé de la période allouée pour les fêtes. Tu sais, déjà que c'est compliqué, on est obligé de compliquer ça davantage. Alors, le ministre de l'Éducation sera avec nous ce matin. Je reviens à des sondages. Cette fois, c'est un sondage qui est publié dans la presse qui nous montre que les Québécois sont peu intéressés par le projet gazier au Saguenay et en Abitibi, le fameux projet GNL Québec, une usine de liquéfaction de gaz naturel, puis ce gazoduc qui devrait traverser l'Abitibi. Les Québécois sont 46 % à se dire défavorables à la construction de l'usine en question et d'un gazoduc. Et les plus jeunes, surtout, ne veulent rien savoir. Et c'est un projet là, qui a un très faible appui populaire quand vous commencez à regarder les sous-groupes comme tels. Et puis aussi, ce matin, il y a un document signé dans le Journal de Montréal par Richard Desjardins et Henri Jacob sur les aires protégées. Québec, les gouvernements ont pris des engagements de protéger le territoire, 17 % du territoire d'ici l'échéance qui avait été fixée. Là, c'est comme toutes ces cibles. C'était le 1er janvier 2021, puis évidemment, c'est pas atteint. Et là, Charles Desjardins, dans cette lettre, demande au premier ministre, d'ici un mois, comment vous allez faire pour atteindre l'objectif? Et le choix qu'il donne est évidemment très sarcastique. Allez-vous trafiquer la définition internationale d'une aire protégée, gaspiller du territoire dans le Grand Nord, protéger des secteurs comme des swamps, qui ont moins de valeur, ne rien faire et continuer à promettre en accord avec le principe politique selon lequel les promesses n'engagent que ceux qui les croient, mettre en œuvre le plan élaboré depuis 10 ans par le ministère des Transports. Les paris sont ouverts, donc on remet les projecteurs sur les grands espaces au Québec et sur l'importance de les protéger. Et puis un mot aussi sur le président Trump qui a nié cette information qu'il voulait, qu'ils sont en train de préparer des pardons présidentiels pour 3 de ses enfants, c'est-à-dire Donald Jr., Eric Trump et Ivanka, convaincu qu'il est que la nouvelle administration va tenter de lancer des opérations d'enquête contre ses enfants. Puis le gendre également, Jared Kushner, fait partie de ceux qui seraient protégés. Alors M. Trump dit que c'est une fake news, que c'est pas vrai, et que même on pensait accorder une forme de pardon à Giuliani. Alors, il dit que c'est totalement non fondé. Puis, entre-temps, ben, la victoire de Joe Biden qui est de plus en plus confirmée. Et puis, en terminant, je veux dire bienvenue à Nathalie Normandeau dans l'équipe du 98.5. C'est annoncé officiellement aujourd'hui. Elle va occuper le fauteuil de Bernard durant la période des fêtes. Puis, à partir du 11 janvier, elle sera à la commission avec Luc Ferrandez. Lise, que je remercie de cette présence, s'en va avec Bernard et Luc Lavoie le midi. Espèce de remaniement. Et je sais que c'est toujours un peu controversé, ce genre d'annonce. Il y a des gens qui sont contents, des gens qui ne sont pas contents, puis il y a des gens qui m'expliquent qu'ils n'écouteront plus jamais l'émission. Écoutez, l'idée, c'est de présenter des points de vue différents, d'avoir des gens qui ont de l'opinion, des gens qui ont du caractère. Et j'aime ça avoir des gens autour de la table qui viennent de différents milieux. Et je le disais un peu plus tôt à l'ouverture de l'émission, Bernard, quand on l'a embauché, les gens disent « c'est épouvantable, c'est le ministre, c'est l'ancien ministre péquiste. » Bon, Luc Ferrandez, le tollé a été, je dirais, à la hauteur de la Tour Eiffel. Puis là, les gens, j'écouterai plus jamais. Puis là, tranquillement, « whoop, whoop, whoop », il n'est pas si pire que ça. Puis, ouais, des fois, il exagère, mais je pense sur des... Bon. Et Nathalie Normandeau, on me dit « ouais, il n'y a pas de fumée sans feu. » Puis je pense qu'elle en est très consciente, qu'il faut qu'elle rebâtisse ce capital de sympathie avec les gens, puis je pense qu'elle va le faire. Il ne faut jamais oublier qu'elle aurait préféré un procès pour être acquittée, que le DPCP a laissé tomber une majorité d'accusations. Puis vous connaissez mon point de vue sur la façon dont l'UPAC travaille ou a travaillé dans ce dossier-là. Autrement dit, oui, c'est controversé. Oui, ça peut déranger. Oui, ça provoque des flamèches puis des gens qui vous menacent. C'est comme des gens qui me disent, « M. Arcand, si vous ne pensez pas comme moi, je ne vous écoute plus. » Mais je ne marche pas comme ça. Puis ils avaient le droit, puis je vous souhaite d'être en désaccord. Mais en même temps, il me semble que c'est ça qui fait le piquant de la vie. Il n'y a rien de pire que des pages Facebook de monde qui pensent toutes la même affaire. T'sais. ça devient un peu plate et redondant. Puis moi, j'ai des amis dans la vie qui pensent pas comme moi, puis que, avec lesquels je suis d'accord, pas d'accord, mais c'est ça qui rend la vie intéressante. Puis on espère, à partir du 11 janvier, rendre l'émission encore plus intéressante. Voilà. 6h22. L'autoroute 19